Littérature sans frontières.
Catherine Fruchon-Toussaint.
Apolline Verlon.
Bonjour à toutes et à tous. Ismaël Kadare est décédé cette semaine à l'âge de 88 ans à Tirana. L'écrivain albanais, pour qui son pays a déclaré deux jours de deuil national, était en effet considéré comme une voix monumentale de la littérature et cité à plusieurs reprises pour le prix Nobel. Publié dans plus de 40 langues, il laisse derrière lui une œuvre très riche, une cinquantaine d'ouvrages, romans, essais, poèmes et théâtres. Révélé avec la publication en 1963 de son premier livre, « Le général de l'armée morte », une fiction puissante sur les fantômes de la Seconde Guerre mondiale, Ismaël Kadare se revendiquait plus de Shakespeare et d'Eschyle que des auteurs soviétiques. Une affirmation courageuse pour cet homme qui vivait dans un pays au régime totalitaire, dirigé par la main de fer de Hoxha. Une tension dont il se libérait grâce à l'écriture, devenu refuge et arme de dénonciation. Souvent menacé par le pouvoir, échappant de peu aux arrestations, travaux forcés, voire aux exécutions, Kadare était un dissident protégé par sa notoriété et les nombreux prix internationaux dont il était lauréat. Reconnu et célébré en France grâce au grand éditeur Claude Durand, Kadare s'était exilé à Paris dans les années 90 et avait continué sans relâche de mettre noir sur blanc ses obsessions autant littéraires que politiques. C'est d'ailleurs l'un des sujets de son livre « Matinée au café Rostand », traduit de l'albanais par Artan Kotro et Teddy Papavrami chez Fayard, où il revenait sur ses années de formation et sur son parcours d'écrivain. À l'occasion de la publication de ce recueil de textes en 2017, il m'avait accueilli chez lui à Paris, boulevard Saint-Michel, en face de ce fameux café Rostand, pour partager quelques confidences, anecdotes et souvenirs d'une autre époque. Je vous propose donc aujourd'hui de réécouter ce grand entretien avec Ismaël Kadare, dans une version d'ailleurs plus longue et inédite. Rencontre. Bonjour Ismaël Kadare.
Bonjour.
Merci beaucoup de nous recevoir chez vous à Paris, à quelques mètres du Jardin du Luxembourg et à quelques minutes du Café Rostand, où vous passez beaucoup de temps à écrire, à rêver peut-être, à regarder les passants. C'est un quartier où il y a beaucoup de cafés. Pourquoi le Café Rostand en particulier ?
Parce qu'il est tout près de ma maison. Ça me suffit 20 secondes pour y arriver. C'est en face de...
Mais il y en a un qui est encore plus près, par exemple, le Café Luxembourg. Vous auriez pu vous installer là ?
Voilà, vous avez raison, il rassemble beaucoup. Non, je ne peux pas expliquer, c'est comme ça.
Est-ce que c'est lié au fait, peut-être, que Julien Gracq s'y arrêtait aussi de temps en temps ?
Je connais lui très bien, j'étais même à sa maison.
Ouais.
Il m'a invité une fois, oui. J'ai plusieurs lettres de lui.
Et vous parliez littérature ensemble ?
Chaque fois que j'ai envoyé un livre comme ça, il m'a écrit une lettre.
C'est important pour vous d'avoir un repère, de vous asseoir toujours à la même table pour écrire ?
Pour tout le monde, pour les écrivains surtout. Oui. Pour être libre d'associations extérieures. Vous êtes déjà comme dans votre maison. Oui.
Donc vous vous installez ? Vous commencez à écrire, à faire des esquisses de vos livres. Est-ce que vous écrivez toujours en albanais ?
Ouais, oui, oui. Oui, l'albanais, on peut pas... Je ne sais pas qu'on fait des autres, mais l'albanais, c'est difficile à changer. C'est une langue très, très compliquée, très difficile. Les langues difficiles sont un cadeau pour les écrivains. Parce qu'ils sont plus faciles de transmettre la pensée. Plus difficile est la langue, plus elle est capable de transmettre toutes les nuances de la pensée.
Est-ce que cet amour des cafés, du Café Rostand en particulier, cette fréquentation, vous rappelle aussi peut-être votre adolescence en Albanie, puisque là vous racontez par exemple que même lycéen, déjà vous étiez rentré dans un café pour célébrer d'ailleurs la publication de votre recueil de poèmes. Est-ce que l'ambiance du café, ça vous rappelle aussi votre
oui,
jeunesse?
Pas seulement moi, mais l'Albanie, c'est un pays qui avait beaucoup, beaucoup de café, toujours. Et même maintenant, j'ai lu il y a quelques jours dans la presse, c'est Tirana, c'est parmi les capitales européennes qu'il y a le plus grand nombre de cafés. Peut-être la deuxième place dans l'Europe. Il aime beaucoup le café, c'est une tradition. J'ai écrit dans mon livre que pendant le régime communiste, les cafés, ils ont perdu un peu leur mystère, etc., parce que le régime n'aimait pas.
Oui, ça veut dire que le café, c'est un espace qui symbolise la liberté, la création artistique.
La liberté de penser, de parler, de dire les choses pas officielles, les choses qui changeaient beaucoup de langage de la presse, de meetings, de conférences, de plénum, etc. Le café, c'était beaucoup plus humain, toujours. Même en Albanie, ils ont changé de régime, essayaient de changer le nom café, remplacer avec un autre nom. Mais ils n'ont pas arrivé à faire ça. Non, ils n'ont pas arrivé.
Et est-ce que vous écrivez en dehors des cafés en général? Vous écrivez aussi chez vous ou c'est vraiment le lieu où là, d'un seul coup, vos idées se mettent en place?
En Albanie, je n'écris pas dans les cafés parce que je suis très connu là-bas. Et si je commençais à écrire, tout le monde va surveiller. Et si vous ralentissez l'écriture, ils vont commencer à chuchoter qu'il a perdu la file de la pensée, il ne peut pas écrire, etc. Non, ce n'est pas possible d'écrire quand les autres vous surveillent.
Mais en France, oui.
En France, oui, parce que, premièrement, les clientèles aussi, c'est un peu rituel dans tous les cafés de Paris. Ils sont habitués avec moi, il n'y a pas aucune curiosité. Mmh. Les autres ne me connaissent pas, qui sont par passage, des touristes, etc.
Ismaël Kadaré, revenons donc à ce livre « Matinée au café Rostand » qui est un recueil de textes très divers, à la fois sur la littérature, sur votre parcours d'écrivain, de l'Albanie à la France, en passant par la Russie, et puis aussi vous rendez hommage à des auteurs que vous aimez, qui ont compté, des écrivains albanais dont certains ont disparu. Vous nous rappelez votre passion pour Shakespeare et Macbeth, qui a été vraiment une pièce importante dans la création de votre pensée. Et puis, vous racontez aussi les soubresauts historiques, politiques, et ce lien avec Paris, où vous vivez d'ailleurs depuis 40 ans. Mais ce qui est très intéressant, c'est que vous rappelez, alors évidemment, c'est une histoire que vous avez déjà racontée, mais vous rappelez la première fois où vous êtes venu à Paris. Et c'est une histoire incroyable, parce que d'ailleurs, elle est nimbée de mystère. Est-ce que vous voulez bien, en quelques mots, Ismaël Kadaré, nous dire comment vous êtes venu à Paris la première fois et pour quelles raisons?
Alors, vous savez que dans tout l'empire de l'ex-Est, c'était un rêve de voyager en Occident. Et c'était toujours très, très difficile. Personne ne se vantait que moi, je vais faire un voyage à Vienne, à Paris, à Berlin, etc. Non, c'était presque interdit. En Albanie, c'était interdite absolument. Dans les pays staliniens, l'Albanie c'était parmi les plus staliniens pays de l'Europe, de l'Est, c'était absolument interdite. C'est-à-dire c'était un rêve, surtout les rêves des gens de la littérature, de l'art. Surtout c'était le rêve pour y aller à Paris. surtout. Et bien sûr, cette rêve commune, pour moi, comme j'étais un jeune garçon littéraire, j'étais déjà à l'étranger, mais j'étais à Moscou. C'était très loin, c'était l'étranger quand même, mais ce n'était pas l'Occident du tout. Hein. Alors bien sûr, c'était cette rêve-là. Elle était devenue 3 fois, 4 fois plus forte quand je suis, un jour, j'ai attendu que je suis publié à Paris. Je ne savais pas. Au commencement, je ne savais pas que j'étais même publié. Quelqu'un m'a dit, m'a chuchoté avec un peu d'horreur. « Tu sais que tu es publié à Paris ?»« Non, je ne sais pas. »« Non, tu fais semblant. »« Non, je ne savais pas. » Alors, je connaissais l'ambassadeur. Il était ex-journaliste. Il était venu dans les vacances en Albanie. « Oui, tu es publié, mais tu ne parles pas à personne. » Il m'a dit aussi. Et aussi, lui, ne parlait pas trop. Parce que j'avais peur de créer des ennuis pour lui.
Parce que c'était subversif d'être traduit en français.
C'était d'être étrange, c'était inhabituel. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'existait pas. C'était quelque chose d'extraordinaire, mais d'un mauvais sens.
Plutôt dangereux presque.
Dangereux, parce que j'étais déjà communiste. C'était 1970.
C'était le général de l'armée morte?
Voilà, c'est ça.
Et donc vous arrivez à Paris, mais on ne sait pas qui vous a invité en fait. C'est un vrai roman, cette histoire.
C'est un mystère étrange.
Et quand vous arrivez, qui vous accueille?
L'ambassadeur, parce qu'il était obligé de me accueillir comme citoyen de ce pays. Pendant la route vers Paris, il m'a demandé, est-ce que tu as l'invitation? Parce qu'il avait le doute maintenant, il a commencé à douter. J'ai dit, je n'ai pas l'invitation, je n'ai pas reçu jamais, mais bien sûr. Ah, il a dit. Comme ça.
Mais vous étiez déjà sur place.
Il a appelé à la maison d'édition. C'était Albin Michel. Il a dit, oh, monsieur, est-ce que je peux parler avec le directeur littéraire? Oh, ben, je vous donne une bonne nouvelle. L'écrivain que vous avez invité, il est à Paris, il est arrivé. Il a dit, oh, monsieur, nous n'avons pas invité aucun écrivain albanais. Il était horrifié, alors il m'a dit que...
Vous êtes resté combien de temps?
Un mois,
et après vous êtes...
J'ai profité de ça, que chaque jour, on a, moi, l'ambassadeur du monde, pour résoudre le secret, oui, le mystère, qu'est-ce qui s'est passé?
Oui.
Personne ne répondait pas.
Et là, vous racontez dans ce recueil que vous avez une liaison avec Paris depuis 40 ans. Est-ce qu'il faut entendre liaison comme une histoire d'amour?
Je ne sais pas si on peut utiliser cette expression, qui est jolie, mais... C'était une histoire de mystère plutôt, de doute, d'amour bien sûr, parce que j'étais très heureux quand je suis venu ici.
Et aujourd'hui, Ismaël Kadaré, vous vous sentez en exil?
Non, pas du tout. Je peux y aller et venir chaque fois, quand je veux.
Donc vous vous sentez un Albanais qui vit en France?
Oui, c'est l'Albanie maintenant, vous savez, elle a beaucoup de problèmes comme petit pays, vous attendez... Peut-être vous avez entendu par hasard l'histoire des gangsters, des prostituées, de la drogue, etc. Mais c'est quand même un pays libre, anarchique. Il n'y a pas de comparaison pour la liberté politique. C'était même, je ne veux pas utiliser le mot exagéré, parce qu'il n'y a... Mais si on peut accepter qu'il y a parfois un pays exagéré pour les pays qui ne sont pas très bien habitués de la liberté, on peut dire oui. Je suis complètement libre, pas moi seulement, mais tout le monde est libre de faire ce qu'il veut.
Aujourd'hui?
Aujourd'hui, ce qu'il veut. Tu peux même pas respecter les règles d'État, de faire les brutalités, dire contre le président, contre le gouvernement, contre n'importe qui, casser toutes les règles de gentillesse que dans les autres pays parfois ne sont pas permis du tout. Hein. Vous pouvez aller dans les jugements. Hein.
Oui, mais c'est nouveau ça, parce que
oui, c'est nouveau, oui.
Vous racontez bien dans ce recueil qui est des allers-retours entre Tirana, Paris, Moscou, que écrire à une époque et à certains endroits, c'était pas du tout une affaire tranquille et que la littérature dérange.
Bien sûr, c'était pendant le communisme.
Est-ce que
le communisme est tombé.
Oui, Mais est-ce que vous avez beaucoup souffert quand même de ces pressions que sont la censure, les menaces, l'autocensure d'ailleurs, et peut-être même la peur d'être emprisonné? Vous avez souffert de ça, Ismaël Kadaré?
Est-ce que j'ai souffert de ça ou non? Je ne pouvais pas vous répondre, franchement. Si je dois être franc avec vous, c'est difficile à répondre pour un écrivain. Parce que pour un écrivain, la chose la plus sublime reste toujours la littérature. Pas pour tous, mais pour quelqu'un. J'ai fait partie des écrivains que toute ma vie, de l'âge de 11 ans, que j'ai lu, comme vous avez dit, Macbeth de Shakespeare, j'étais en otage de la littérature. Et si j'ai réussi d'écrire même une page par jour, demi-page ou deux pages, j'étais la créature la plus heureuse du monde. Et ça me suffisait pour que les autres choses, les autres soucis, paraissent pas très importantes.
Oui, mais quand même, on sent qu'il y avait une menace très importante. Ah, par exemple, vous racontez une scène, mais incroyable. Vous recevez un coup de téléphone, quelqu'un pleure au bout du fil. C'est de la maison d'édition qui dit, voilà, il y a une menace sur ton livre. Ouais. Et là, alors Ismaël Kadaré, il faut vraiment que vous me disiez si c'est vrai ou pas. Vous décidez d'organiser un passage à tabac, je cite vos mots, pour que quelqu'un aille casser la figure à la personne qui menace votre livre. C'est vrai, ça?
C'est une histoire vraie, oui. Je savais que c'est comme ça. Mais en même temps, je trouvais monstrueuse de faire ça, malgré ça que je savais très bien que tout le monde souffre de ça. Le malheur, la plupart des choses que vous avez mentionnées, ce n'est pas ni menace, ni censure, c'est l'autocensure. Si vous êtes tombé dans cette maladie terrible, vous êtes fini. Si vous êtes épargné de ça, vous êtes sauvé. Et rien... Vous ne pouvez pas faire peur, vraiment peur. Une fois, j'ai fait la comparaison avec la Divine Comédie de Dante Alighieri, quand il décrit l'enfer. C'est comme vous êtes un personnage dantesque, qui vous êtes dans ce royaume où, parmi les morts, vous ne pouvez pas, vous êtes vivant. C'est-à-dire, si la littérature, si l'écriture, ça marche, pour vous, c'était la comble de sublimité. Chaque page que vous avez écrite et chaque page que vous avez publiée, c'est une victoire sublime, presque divine. Et ça vous donnait courage et un sentiment de bien-être infini.
Mais ce n'était pas un peu hors la loi d'engager un homme de main quand même?
C'était bien sûr, c'était mon c'était le copain. Sur la loi, oui, bien sûr.
Alors, il y a une autre scène qui m'a beaucoup frappée, quand vous allez à l'académie avec un revolver. C'est vrai, ça aussi?
Que j'avais un revolver sans permission. Ça, oui. C'était beaucoup de gens qui l'avaient, ça, pour plaisir, pour utiliser, parce que... Qu'est-ce que vous allez faire avec un revolver dans un régime totalitaire, vous, rien. Mais je ne sais pas, c'était un plaisir caché. C'est vrai. J'ai acheté à quelqu'un, parce qu'on pouvait acheter en cachette, hein, le revolver.
Mais avoir un revolver, ça veut dire qu'on se sent en danger, non?
Pas, dans ce cas-là, pas vraiment. Parce que contre un État totalitaire, vous ne pouvait pas faire rien, absolument. Et personne ne pouvait pas faire contre vous rien sans que l'État sache.
Et vous vous en êtes servi?
Non.
Quel est votre lien avec l'Albanie aujourd'hui?
Plutôt, j'écoute les nouvelles qui sont inquiétantes parfois, et ça me fait la peine plutôt. J'ai les nouvelles pas agréables du tout. Pas
agréables du tout. Vous y retournez?
De façon régulière. Je passe mes vacances tout l'été, je reste là-bas, et aussi deux fois par an encore.
Est-ce que les Albanais sont fiers de vous?
Je crois que oui. Parce que je suis très, très, très publié dans le monde. Beaucoup plus même que des gens sachent.
Oui, dans plus de 40 langues, vous êtes traduit.
Oui, mais j'ai beaucoup de titres publiés dans chaque pays. C'est normal d'avoir 20 romans, 30 ou 20 ou 40 parfois. Parce que j'ai beaucoup de titres, beaucoup de romans courts qui sont faciles à publier, faciles à traduire. Quelqu'un me dit plus de 1500.
Oui, vous êtes l'écrivain albanais le plus connu au monde.
Absolument, oui.
D'ailleurs, ça me fait penser à une question que je ne vous ai pas posée, qui est quand même très importante, c'est que dans ce recueil, vous produisez le procès verbal d'un interrogatoire qui date de 1982, où quelqu'un vous accuse de faire partie d'un complot à l'étranger et d'être un dissident. Vous étiez au courant
J'ai attendu les rumeurs, toujours. Écoutez, parce que dans des pays totalitaires, on a passé les folles rumeurs. Hein, que, bien sûr, je suis publié en Occident. Je suis des pays les plus stalinistes de l'Europe. Et c'est normal que le peuple, ils ont le droit de juger que pourquoi il est aimé par la bourgeoisie. Parce que pour eux, la question, c'est simple. Moi, j'étais aimé par le monde capitaliste. Et le monde capitaliste, c'était l'ennemi numéro un de l'Albanie. Ennemi mortel, ennemi monstre, etc., etc. Et il faut donner une explication à cela. Comment il vit avec ce soupçon?
Et alors,
pourquoi la bourgeoisie aime lui?
Et alors, comment vous viviez avec ce soupçon? Ça ne vous a pas fait de la peine d'être considéré presque comme un traître?
Je savais ça, mais quand même, puisque une partie de la population, la plus grande partie, m'adorait, c'était la meilleure protection de ça. Ils sont habitués eux-mêmes. Ils sont bagarrés entre eux. Et c'est fini. Voilà pourquoi j'étais indifférent. Même j'ai attendu ça, mais je ne croyais pas. Quelqu'un, parce qu'il était un ex-ministre, déclarait dans les tortures que nous avons fait un complot pour tuer Hoxha. Vous avez lu, peut-être, c'est publié deux ou trois pages. Et c'était un grand succès que nous avons recruté Ismaël Kadare.
Oui.
Et mon enfant, c'était publié il y a quelques années. C'était faux, bien sûr.
C'était oui, c'était faux. Et d'ailleurs, depuis, le ministre a été fusillé.
Absolument, il a été fusillé. C'était le ministre de la Santé.
Ouais.
Voilà, c'était un intellectuel très connu de Tirana.
Donc vous avez traversé ça.
J'ai attendu ça. Est-ce qu'il y a pire de ça? Non, ça n'existe pas pire de ça. Au contraire, j'ai gagné une sorte de liberté encore, une plus grande liberté encore. Parce que même ça, ça a été une idiotie totale. Parce que ça vous protégeait. Parce qu'en fin de compte, l'État lui-même, il savait que ce n'est pas vrai. Mais pourquoi ils ont fait ça? Ils ont fait ça pour avoir le dossier préparé. Parce que la moitié des condamnations dans le régime totalitaire, ce n'était pas contre les gens qui ont fait quelque chose. Vraiment, ils ont fait quelque chose contre le régime. Mais qu'il fallait terroriser les autres. Alors, il y a eu des milliers de dossiers, par exemple. Et ce secret, c'était, comment on dit cette expression fameuse, secret de Poli...
Chinelle.
C'était connu. Et ça, c'était une protection naturelle envers vous.
Enfin, vous devez bien être content que tout ça soit fini maintenant.
Oh, bien sûr. Bien sûr.
Sans être indiscrète, vous avez passé vos 80 ans, Ismaël Kadare.
Oui.
Qu'est-ce qui vous rend heureux aujourd'hui?
Le fait même que j'ai arrivé à cet âge-là. Moi, ça ne me donne pas ça, ni bonheur, ni tristesse. J'écrivais toujours, et ça a été le plus grand bonheur pour moi. Je n'ai pas les livres, si je meurs tout de suite, que laisser sans écrire, etc. Non, parce que j'ai connu des collègues, des confrères écrivains, qui sont morts parfois avec cette tristesse, au fond, qu'ils ont laissé les choses sans écrire, ou les choses qui sont pas bien écrites, ils aimeraient que ça n'existerait pas. Et surtout pour nous qui nous sommes vécus dans les pays totalitaires, en général, c'est ce sentiment que qui sont les livres qui peut-être aurait été bien qu'ils n'existeraient pas. Les journalistes albanais, surtout, qui connaissent mon œuvre en particulier, ils m'ont fait sa demande. Est-ce que j'ai un gêne pour les livres que j'ai publiés qui, peut-être je ne dois pas écrire. En général, je n'ai pas ça. Même, j'ai réédité surtout les livres qui ont peu été critiqués maintenant comme les livres un peu conformistes, c'est-à-dire de fameux réalisme socialiste. J'ai réédité parce que ça, je n'ai pas honte de. Il n'y a pas rien de honteux dans mon œuvre.
Donc vous êtes fier de tout ce que vous avez écrit?
Je ne peux pas dire fier de tout. Il y a les choses. Vous savez, la littérature, c'est entre autres une imitation. Quand vous êtes jeune, surtout jeune écrivain, vous écrivez, vous êtes sincère, vous êtes ou pas, c'est l'autre chose, mais vous êtes influencé par. Aristote, il a expliqué très bien ça, le mimétisme fameux. Il y a une mode de pensée littéraire commune. Et vous êtes surtout quand vous êtes jeune. On ne peut pas jamais prendre au sérieux les pensées des jeunes dans la littérature, surtout dans les pays totalitaires. Jamais. Jamais. Parce qu'ils pensent que c'est comme ça. C'est comme ça, les habitudes, rituels. Il faut respecter ça, à peu près. Sans savoir, ils écrivent les choses qui maintenant, c'est gênant de dire. Mais non, à cette époque, tout le peuple était comme ça.
Pour finir, Ismaël Kadaré, le plus important, c'est la littérature et l'écriture, non?
Ah oui, c'est plus qu'on pense, plus qu'on peut penser. Parfois, si je dis ça, je suis écrivain, et on peut penser que, bien sûr qu'il va dire ça, parce qu'il est littéraire lui-même, il va sublimer la littérature, plus que les autres, mais je pense qu'elle est divine, parce qu'il n'y a rien au monde qui est immortel. Rien au monde immortel. Les peuples meurent parfois, les nations meurent, sont remplacées par les autres, ils sont changés. Elles ne changent pas, Homère ne change pas, le drame grec ne change pas, jamais. Vous pouvez, notre planète, vivre encore dizaines de milliers d'années, et ce sera la même littérature.
Si vous voulez bien, Ismaël Kadaré, on va se quitter avec cette belle idée que la littérature est immortelle.
Absolument, oui. Vous ne trouverez pas. Si vous allez trouver, vous me téléphonez et vous dites « J'ai trouvé quelque chose de plus immortel. »
Alors, je n'y manquerai pas. Merci beaucoup. Je rappelle le titre de ce nouveau livre que vous publiez aux éditions Fayard, « Matinée au Café Rostand ». Café Rostand, où on peut vous retrouver de temps en temps, Ismaël Kadaré, même si, à mon avis, vous aimeriez bien garder toute votre intimité.
Même ça... On ne peut pas éviter. Il y a quelque chose qu'on ne peut pas éviter.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Littérature sans frontières, Catherine Frujon-Toussaint, Apolline Verlon.
Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.